Tous les mardis, Guy Millière sur Coulam Radio.
Bonjour, c'est Guy Millière depuis Las Vegas. Si je devais donner un titre à ma chronique de cette semaine, le titre serait « Dirigeants israéliens, méfiez-vous des intellectuels juifs de gauche français et attendez-vous à ce que, dès qu'ils en auront l'occasion, ils vous donnent le coup de pied de l'âne ». Ce qui me mène à ces propos est la publication d'une tribune dans le journal Le Monde, connue pour ses positions anti-israéliennes et pro-terroristes qui frôlent souvent l'antisémitisme. La tribune est consacrée au projet de retour de la vallée du Jourdain et d'une partie de la Judée-Samarie à Israël. Les signataires de la tribune sont une quarantaine et ils ont l'appui de diverses organisations juives de gauche, d'anciens officiers supérieurs de l'armée israélienne et d'anciens agents du Mossad, de gauche eux aussi, et très minoritaires parmi les anciens de l'armée israélienne et du Mossad. Parmi la quarantaine de signataires, on trouve les anciens de G-Call, qui a été la tentative de créer en Europe un équivalent de l'organisation américaine J Street, fondée à l'instigation de Barack Obama et avec les moyens financiers de George Soros, qu'on ne présente plus, pour concurrencer sur la gauche l'AIPAC, le grand lobby pro-israélien américain, qui est pourtant lui-même plutôt à gauche. J Street a été tellement pro-palestinienne, entre guillemets, que c'est resté une organisation marginale. Et G-Call est resté si marginal que c'est un mouvement qui a rapidement disparu. Parmi la quarantaine de signataires, donc, on trouve les suspects habituels. Bernard-Henri Lévy, le génial stratège qui a transformé la Libye en un repère de terroristes islamiques et de passeurs d'immigrants clandestins musulmans. Alain Finkielkraut, que certains ont pris pour un conservateur alors que cela n'a cessé d'être un homme de gauche, imprégné d'une nostalgie pour la gauche façon Troisième République. Anne Sinclair, quelques autres, Daniel Cohn-Bendit, Benjamin Stora. Et que disent ces signataires? Qu'ils sont inquiets, inquiets face au projet du gouvernement israélien de procéder à, je cite, « l'annexion de certaines parties de la Cisjordanie ». Ils ne savent visiblement pas qu'il ne s'agirait pas, le cas échéant, d'une annexion, mais d'un retour à la terre d'Israël, de terre juive depuis des millénaires, et de terre qui devait faire partie du foyer national juif lors des accords de San Remo en 1920. Et ils parlent de Cisjordanie, donc, en oubliant délibérément que ces terres font partie de la Judée-Samarie depuis très longtemps, et ne se sont appelées Cisjordanie que pendant deux décennies, de 1948 à 1967. Ils ignorent l'histoire complètement, et leur vocabulaire est celui des ennemis d'Israël. Ils disent dans la phrase suivante les raisons de leur inquiétude. Cela porterait atteinte aux droits du peuple palestinien. Ils ignorent donc que le peuple palestinien a été inventé fin 1967 dans les officines du KGB pour changer la guerre arabe de destruction d'Israël en un simulacre de lutte de libération nationale. Et ils oublient que le peuple palestinien est le seul peuple dans l'histoire à avoir été inventé pour être un instrument de destruction massive d'un autre peuple, le peuple juif. En Israël, leur vocabulaire, oui, est celui des ennemis d'Israël. Un peu plus loin, ils invoquent le droit international et l'Organisation des Nations Unies et semblent imaginer que les Nations Unies, qui sont devenues depuis longtemps un club de dictateurs plus ou moins antisémites, où seul le droit de veto des États-Unis empêche que soient prises des décisions monstrueuses, ils imaginent donc que les Nations Unies disent le droit international. Sans veto américain, la définition du sionisme comme un racisme aurait été adoptée. C'est cela le droit international? Vraiment? Leur vocabulaire est encore et toujours celui des ennemis d'Israël. Une autre phrase, vont son pesant de cacahuètes ou de pois chiches. Ce qui risque de se produire, disent-ils, serait la fin de la solution à deux États et anéantirait tout espoir du peuple palestinien de parvenir à l'autodétermination par des moyens non violents. Ce serait risible si ce n'était tragique et monstrueux. Ils sont, les signataires de ce texte, quasiment les derniers à croire à une solution à deux États. Ils ne se sont pas aperçus que les organisations palestiniennes, entre guillemets, n'ont jamais voulu d'une solution à deux États et n'ont jamais souhaité autre chose que la destruction d'Israël. Les attentats ignobles qui ont suivi les accords d'Oslo ne leur ont donc pas suffi? Il est vrai que ce n'est pas eux ou leurs proches qui sont morts ou qui sont restés mutilés. mais cette indifférence au sort des Israéliens juifs suscite le dégoût, et surtout évoquer des moyens non violents de la part des Palestiniens, entre guillemets, quand l'OLP, qui reste le vrai nom de l'autorité palestinienne, continue à inciter au terrorisme et à l'assassinat de juifs, à inculquer la haine anti-juive aux enfants, à rémunérer les tueurs de juifs et à en faire des héros. Ces gens ignorent-ils vraiment ce qu'est l'OLP ? Savent-ils que l'administration Trump a rompu toute relation avec l'autorité palestinienne précisément parce qu'elle recourait au terrorisme et rémunérait les tueurs de juifs et leurs familles ? Tuer des juifs en Israël, ce sont des moyens non violents ? Vraiment ? Israël est un État souverain qui a un gouvernement souverain prenant ses décisions sur la base des volontés du peuple souverain d'Israël. Et les vrais amis d'Israël soutiennent Israël et savent qu'Israël est une démocratie menacée par le terrorisme, l'islamisme et l'antisémitisme. Ils ne donnent pas des leçons arrogantes et cuistres. Et ils ne se prétendent pas, depuis Paris à 4000 km d'Israël, être des amis d'Israël en parlant comme des ennemis d'Israël. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Coulam.